Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
Paula Padani est une danseuse que l'histoire a presque oubliée. Formée dans l'Allemagne des années 20, au cœur de la révolution de la danse moderne, elle en a été chassée parce qu'elle était juive. Elle a reconstruit sa vie et son art en exil, en Palestine notamment, et après la guerre, elle est allée danser dans les camps de rescapés pour aider les survivants à retrouver leur dignité. Son parcours traverse tout, la modernité artistique, le nazisme, l'exil, la réparation et la transmission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir au studio de l'Institut Laure Guilbert, historienne de la danse, qui a beaucoup travaillé sur les années 30 et 40 en Europe centrale. Elle est membre correspondante de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2025. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous étiez en 2024 la commissaire de l'exposition autour de Paula Padani au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors l'exposition est aujourd'hui terminée, mais nous avons pensé que l'histoire de cette danseuse méritait aussi d'être racontée sur nos ondes. Alors merci d'être avec nous au studio pour la raconter. Mais Laure Guilbert, avant de raconter l'histoire de Paula Padani, je voulais commencer par une petite expérience sensorielle, en vous demandant de nous décrire, en quelques mots, à quoi pouvait ressembler la danse et les gestes de cette femme pour qu'on se l'imagine quelques instants.
Alors Paula Padani était tout d'abord une femme d'une grande beauté. Sa danse s'inscrit dans l'histoire de la danse moderne d'Europe centrale et elle est très reliée à l'histoire de l'expressionnisme en peinture, en poésie. C'est l'idée que la forme née de l'intériorité, née des couleurs intérieures de la personne, que le geste est porté par des affects et se déploie dans une écoute de la sensorialité. Donc Paula a reçu cette formation qui est très riche et qui va vraiment puiser dans une histoire des émotions, finalement. Elle s'est aussi beaucoup reliée à toute une histoire de la rythmique. C'est l'idée que le corps peut être autonome dans son rapport au rythme. Le corps n'a pas nécessairement besoin de la musique, même si, bien sûr, les danseurs modernes ont utilisé toutes les musiques classiques, contemporaines, etc. Mais c'est l'idée qu'il faut aller puiser au fond de soi le tempo des émotions, finalement. Donc, elle a été très passionnée par toutes les rythmiques méditerranéenne qu'elle a découverte notamment en allant en Palestine mandataire. Voilà, donc c'est une danse qui est aussi très maîtrisée, bien sûr, qui se déploie dans cette écoute du corps et qui nécessite d'aller vers une forme d'authenticité, une quête d'authenticité dans ce que le mouvement veut dire, qui n'est pas nécessairement une narration, mais dans cette espèce de vérité de l'être que le mouvement de la danse moderne porte. Et ce style de danse a beaucoup aidé Paula Padani dans ses différents rebonds dans sa vie, parce que c'est véritablement une danse de l'existence, en fait.
On va aller creuser ça tout à l'heure. Quelle place occupe Paula Padani dans l'histoire de la danse? Est-ce qu'elle est connue des historiens ou c'est une danseuse qui reste encore beaucoup dans l'ombre?
Paula Padani a été oubliée, quand bien même elle a été très connue durant sa période palestinienne. Elle a été oubliée parce que c'est une artiste juive qui a dû partir en exil, donc qui a quitté l'Allemagne, son pays de naissance. Elle était polonaise d'origine, par sa famille. Elle a construit sa réputation, sa renommée en Palestine mandataire en l'espace de 10 ans, entre 1936 et 46. De retour en Europe, où elle finit par se réinstaller en France, ce qui n'était pas prévu initialement, elle a un moment où elle est de nouveau connue parce que elle part danser. Les gens s'intéressent à elle à Paris, les photographes, les journalistes, parce qu'elle découvre une danse solaire tout à fait incroyable dans cette Europe en ruine. Et elle est invitée à danser dans les camps de personnes déplacées des zones d'occupation allemande, enfin la zone surtout américaine. Donc là, il y a un moment de nouveau de déploiement où cette danse solaire aide les populations juives rescapées. Mais après ça, elle arrête cette carrière de scène pour différentes raisons et elle se lance dans une longue carrière de pédagogue, tout à fait discrète, où elle travaille au départ pour des professionnels, puis pour des amateurs. Et elle entre, si je puis dire, dans une vie apaisée, normalisée, au sens où elle n'est plus dans ce parcours de rebond, de l'exil, de la fuite, de la vie, de la survie, de l'invention d'une vie dans ce mouvement de la migration permanente. Et donc, à ce moment-là, elle n'est plus sur scène, donc on l'oublie, si je puis dire.
Elle est moins médiatisée.
Elle est moins médiatique. Mais il y a une autre dimension de l'oubli, qui est celle plus large, plus collective, de l'oubli des artistes chorégraphiques exilés, qui ont été effacés de l'histoire à différents niveaux.
On va commencer avec ses origines, puisqu'elle naît en 1913 à Hambourg, en Allemagne. Et donc la modernité, en fait, elle la rencontre d'abord ici, dans cette ville, à Hambourg, bien avant la danse. À quoi ressemblait Hambourg dans les années 1910, quand elle naît ?
Alors, les parents de Paula arrivent de Pologne, de la ville de Łódź, Łódź, en 1910, avec déjà deux filles aînées. Ils sont pauvres, ils fuient l'antisémitisme et l'appauvrissement des Juifs de l'Europe de l'Est, et ils arrivent à Hambourg dans l'espoir de partir en Amérique, où une partie de leur famille sont déjà là-bas. Et puis ils ne peuvent pas avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et Paula naît en 1913 à Hambourg, et donc vit dans le nouveau quartier juif de Hambourg, qui est au nord de la vieille ville de Hambourg, qui s'appelle le quartier de Grindel, qui est un quartier où les populations d'Europe de l'Est migrent pour développer ce nouveau quartier où vivent déjà des populations juives assimilées, donc plutôt populations bourgeoises. Donc ce quartier est tout à fait étonnant parce qu'il mélange les populations allemandes, les populations juives assimilées judéo-allemandes, et puis les populations d'Europe de l'Est qui fuient en attendant de partir plus loin vers l'Ouest. Et Paula grandit dans ce monde entre la Yiddishkeit, on parle yiddish à la maison, et puis une éducation dans laquelle elle reçoit les valeurs de la culture juive assimilée. Donc les valeurs de la Bildung, de l'éducation, où l'idée est que par la culture, par l'éducation, on peut s'intégrer dans la société allemande, on peut être reconnu, assimilé dans la société allemande. Donc elle vit entre ces deux mondes, dans une famille de 5 enfants pauvres, qui est soutenue par les différentes associations juives de Hambourg. Mmh. Et elle reçoit donc une éducation musicale et chorégraphique, parce que la modernité émerge, bien sûr, dans les années 20, en tout cas pour la danse, se déploie réellement pour la danse. Il y a énormément d'écoles de gymnastique rythmique, de danse moderne qui se développent. Et Paula Padani, donc, connaît une première expérience artistique dans l'enfance.
Et cette modernité qui se développe, elle se développe particulièrement à Hambourg, en Allemagne, en Europe ?
Alors, cette modernité pour la danse se développe partout en Europe centrale, avec des pôles très importants en Allemagne et en Autriche, mais également en Pologne, à Varsovie, en Hongrie, en Croatie, etc. Donc c'est une modernité qui se déploie très rapidement en Europe centrale à partir des années 10 et après la Première Guerre mondiale.
Paula Padani va se former dans une école, faut qu'on s'arrête un petit peu dessus, l'école Wigman. C'est une école, à l'époque, un peu révolutionnaire. Alors, le terme est peut-être un peu trop radical, mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu dessus, sur cette danse moderne des années 20. C'est une danse qui connaît un grand succès. En quoi elle marque une rupture avec la danse établie de l'époque ? Qu'est-ce qui change ?
C'est une danse qui puise à d'autres sources que celle du ballet classique. C'est une danse qui puise ses sources dans ce que je disais tout à l'heure, l'approche expressionniste de l'expression de soi. On parlait de Ausdruckstanz à l'époque, qui veut dire la danse d'expression. Ce n'est pas tout à fait la même chose que danse expressionniste, mais la danse d'expression, c'est l'idée que la personne, la personnalité peut se déployer à partir d'une expression de soi qui passe par le médium artistique du mouvement.
C'est-à-dire qu'on part de ses émotions intérieures,
oui,
c'est ça?
Tout à fait. Si, par exemple, vous voyez les films expressionnistes de l'époque où toutes les décors, les formes sont déformées, on est dans cette quête de forme d'extase, en fait, d'aller jusqu'au bout d'émotions fortes. Et la danse est une expression de tout ce monde de l'expressionnisme. Ensuite, bien sûr, elle se détache de l'expressionnisme et elle avance dans ses propres recherches également. C'est une danse qui va vers l'abstraction. C'est une danse qui est d'une grande variété, à la fois dans ses méthodes et dans ses œuvres scéniques. Mmh. Chaque artiste, chaque chorégraphe est porteur d'un monde en soi, bien évidemment. Mmh. Donc Marie Wigman est une des représentantes importantes de la danse moderne, mais elle est loin d'être la seule. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été à l'époque très connues, qui ont été depuis oubliées. Mais Marie Wigman ouvre une école à Dresde en 1920, en revenant de Suisse, où elle a passé le temps de la guerre là-bas, dans une communauté d'artistes, une communauté utopique, sociale et artistique. Et cette école de Dresde, très rapidement, attire des jeunes femmes, des jeunes hommes de toute l'Europe centrale, mais voire plus loin. Il y a des artistes japonais qui viennent travailler avec elle, très rapidement des élèves américaines.
Et c'est dans cette école que Paula Padani va se former.
Et c'est là où Paula Padani va se former après avoir passé 2 ans dans la filiale Wigman de Hambourg. Mmh. Et c'est à ce moment-là, à Hambourg, en 1932, où elle décide de se lancer dans une formation professionnelle. Et c'est pour ça qu'elle rejoint l'école mère de Dresde en 1932 pour entrer dans une formation professionnelle, dans l'idée de devenir pédagogue, danseuse et chorégraphe, puisque ces formations à la danse moderne formées à ces trois métiers, c'était des triades indissociables. Mmh. Donc vraiment une formation qui pousse à la création.
Et vous dites qu'elle arrive dans cette école donc en 1932, elle est juive, est-ce qu'elle a son diplôme ?
Alors, elle passe 2 ans dans cette école, elle aurait pu passer a priori un peu une année de plus, normalement. Mais elle étudie donc en pleine tourmente. On ne sait absolument pas ce qu'elle voit de cette Allemagne qui entre dans l'ère nazie. Elle peut terminer ses examens, elle peut présenter ses examens en 1934, son examen de fin d'études. Mais elle réussit brillamment ses examens et puis l'école ne lui délivre pas de diplôme, juste une modeste attestation qui ne sert à rien, qui n'est pas un diplôme officiel. Donc, elle est discriminée en tant que juive, alors qu'elle était une élève appréciée de Marie Wigman, car très talentueuse. Mmh. Wigman lui a donné des cours particuliers. Il y a beaucoup d'élèves juives qui sont passés par l'école Wigman. Les troupes de Marie Wigman, composées d'élèves jeunes diplômés, donc de jeunes artistes qui se lancent, comportent de nombreuses anciennes élèves juives. Mmh. Et Paula quitte l'école en étant sans horizon ouvert. Donc c'est une rupture fondamentale, c'est un choc fondamental. Et c'est à ce moment-là qu'elle, je pense bien sûr, qu'elle doit réfléchir à la question de l'exil, puisque de toute façon, quand bien même elle veut faire carrière, mais bon, voilà, elle est très jeune, on ne sait pas encore une fois, quelle est sa conscience politique à l'époque. Ses frères et sœurs sont déjà partis, soit parce que sionistes et décidant de partir avant 1933 en Palestine mandataire, soit parce qu'eux-mêmes discriminaient aussi dans leurs études. Mmh. Donc voilà, elle suit les routes de sa fratrie.
Mais elle ne les rejoint pas directement. Elle les rejoint pas directement en Palestine, je crois.
Non. Alors, elle est seule. Elle est la seule de sa famille à rester en Allemagne. Elle a 20 ans. Elle n'a aucun soutien familial puisque ses grands-parents sont en Pologne, elle ne les connaît pas, ses parents sont décédés, elle est orpheline, on n'en a pas parlé, mais elle est orpheline de sa mère depuis l'âge de 8 ans et de son père depuis l'âge de 12 ans. Mmh. Ses études, son éducation ont été financées par les communautés juives de Hambourg. On peut imaginer qu'elle est soutenue un peu financièrement pour quitter le pays. Elle reste encore quelques mois en Allemagne et puis elle part vers la Suisse, où ses petits frères ont suivi des études d'horticulture financées par la communauté juive d'Hambourg. On ne sait pas si elle les croit, si les frères sont déjà partis. Il y a énormément d'inconnus sur ce moment-là de l'exil qui est vraiment une errance en Europe. Et en fait, elle trouve un premier travail en Italie, à Florence, dans une école de danse où elle commence pour la première fois à se construire une expérience d'enseignement. Ce qui lui permet de transmettre son art moderne à des jeunes artistes classiques. Donc c'est intéressant parce que elle-même partant en exil, d'emblée participe à la diffusion, à la transmission de la modernité juive. Elle se construit une première expérience, puis ensuite elle part à Athènes rejoindre sa sœur aînée qui est mariée à un juge grec, qui a deux enfants et qui l'accueille pendant un an, où elle peut donc retrouver une partie de sa famille et aussi poursuivre son expérience d'enseignement où elle fait la même chose. Elle enseigne à de jeunes artistes qui ne connaissent pas du tout la danse moderne. Donc là aussi, elle poursuit cette transmission de la modernité juive.
Qu'est-ce que vous entendez par modernité juive ?
La modernité juive, c'est tout un courant de la modernité porté par des artistes juifs qui sont entre plusieurs mondes, qui pour beaucoup ont quitté l'Europe de l'Est pour venir en Europe centrale et qui sont porteurs d'une conscience forte de monde qui doivent se déployer dans l'entre-deux, entre plusieurs mondes, c'est-à-dire à la fois dans l'adaptation, dans l'assimilation, mais aussi dans l'inconscience qu'ils sont porteurs d'autres cultures. Et donc, Paula participe à ces espaces culturels, multiculturels, finalement.
Parce qu'elle ne renie pas, elle transmet ce qu'elle a appris, la méthode qu'elle a appris dans les années 20 en Allemagne, tout en s'imbibant de la culture qu'elle découvre au Moyen-Orient, en Palestine.
Oui, effectivement, c'est une jeune femme qui se construit comme artiste dans le mouvement de l'exil et ensuite plus tard de la migration. C'est-à-dire exil contraint et ensuite migration volontaire. Après Athènes, elle décide de rejoindre une autre partie de sa fratrie qui est déjà arrivée en Palestine mandataire. Mais c'est un voyage, elle part en 1936. C'est un voyage qui est extrêmement complexe à l'époque puisqu'il lui faut traverser la Syrie sous mandat français, le Liban, enfin toute cette zone sous mandat français. Les frontières étaient différentes à l'époque. Elle se fait aider par un prof de français de Damas qui l'emmène avec sa famille vers la frontière nord de la Palestine mandataire, donc entre l'actuel Liban et l'Israël, et qui la fait passer discrètement comme la nourrice de ses enfants. Donc elle entre clandestinement en Palestine mandataire puisqu'elle n'a pas d'argent pour acheter un visa, pas d'expérience professionnelle suffisamment solide pour justement obtenir un visa. Et elle n'a pas d'autre choix que d'entrer clandestinement. À un moment où il devient très dangereux d'entrer clandestinement dans cette zone culturelle, puisque les Britanniques commencent à interner les Juifs arrivés d'Europe qui arrivent clandestinement, parce qu'il y a cette tension, bien sûr, entre cette espèce d'équilibre impossible entre les Britanniques, les populations arabes et les populations juives qui s'exilent aux quatre coins du monde et qui, pour beaucoup, arrivent en Palestine mandataire.
Elle est très seule de ce que vous décrivez. Et pourtant, voilà, elle arrive à Tel Aviv et commence cette période palestinienne. Elle va ouvrir sa propre école de danse. Et ce qu'on peut retenir de sa danse, c'est que vous dites que c'est une danse qui, malgré tout, affirme la vie et la joie. Ça, c'est essentiel.
Oui, alors effectivement, pour répondre aussi à votre question précédente, elle va tisser son monde artistique en allant puiser dans les cultures méditerranéennes qui la passionnent. Elle arrive avec cet héritage européen, une formation excellente. Elle fait partie des élites européennes qui arrivent en Palestine, non pas élite sociale, mais une élite culturelle qui a reçu la meilleure éducation. Et puis, elle se passionne pour ce monde qu'elle découvre, ces paysages d'une splendeur absolue, des déserts, ces collines de Galilée, les plages de Tel Aviv. Elle se passionne pour ces paysages solaires. Elle redécouvre l'histoire biblique de ses origines qu'elle avait un peu mis de côté quand elle était à l'orphelinat, sans doute par à la fois parce qu'il est difficile d'être une juive d'Europe de l'Est quand on traverse ce qu'elle traverse et quand on connaît l'histoire de sa famille. Donc elle se relie à l'histoire biblique et elle redécouvre les textes du Talmud qu'elle va aborder non pas en tant que croyante qu'elle n'est pas véritablement, mais plus comme des textes d'histoire littéraire et dont elle s'empare pour construire les personnages de ses premiers solos. Elle s'intéresse aussi énormément aux musiques de la région, toutes ces rythmiques de la culture yéménite, toutes ces rythmiques de certaines cultures arabes aussi qu'elle va chercher, toutes les cultures juives d'Orient finalement, qu'elle relie à sa propre formation musicale, parce qu'elle est aussi très musicienne, elle a aussi une formation musicale de pianiste.
D'accord.
Elle chante extrêmement bien. Elle se relie aussi à tous les milieux exilés d'Europe centrale, qui pullulent à Tel Aviv et qui se relient ensemble pour recréer des mondes de l'art, pour recréer des projets de création ensemble ou pour transmettre le répertoire européen. Et Paula a besoin, pour exister, pour surtout supporter la déchirure d'avoir perdu, d'une part, ses parents, très jeunes, mais aussi d'avoir quitté le monde de son enfance, de sa jeunesse, elle a besoin de vivre intensément le présent. Et ça déclenche sans doute cette espèce de fièvre de création qui la prend et qui ne s'arrête pas pendant 10 ans, et qui est une forme aussi de thérapie pour toute personne exilée qui sait que a priori, il n'y aura pas de retour au pays d'origine. Elle se relie donc à ces mondes de l'art qui lui permettent aussi d'avoir une première expérience de scène. Elle est engagée dans la compagnie de Gertrud Kraus, une chorégraphe viennoise qui s'est exilée en 1935, enfin qui a plutôt fait son alia un peu plus tôt en 1935, parce qu'elle est, elle, très sioniste, qui n'est pas le cas au départ de Paula Padani. Et Paula, donc, enfin peut accéder à l'expérience de scène qui lui était interdite en Allemagne. Et c'est là qu'elle peut se déployer. Et donc ensuite, après cette expérience dans la compagnie de Kraus, elle ouvre son école à Tel Aviv et elle commence en parallèle ses créations de solo. Et elle va créer...
Il y en a beaucoup ?
Peut-être une trentaine, quarantaine de solos en l'espace de 10 ans, tout en ayant une école où il y a beaucoup d'élèves. Elle a plus de 100 élèves. Au bout de quelques années, elle est très vite reconnue et elle sillonne le pays pour montrer ses chorégraphies. Elle est invitée dans tous les théâtres de Jérusalem et de Tel Aviv, comme le sont les autres quelques artistes chorégraphiques exilés comme elle, qui forment ensemble, en fait, la première génération d'artistes de la scène de la Palestine mandataire.
Alors, je me permets d'avancer un petit peu, oui. Puisque après la guerre, en 1946, donc elle entame une tournée dans les camps de rescapés. Elle veut rendre confiance, redonner confiance aux gens. Et donc là, voilà, elle va faire une rencontre entre la culture juive yiddish et puis son monde de la modernité, comme vous l'aviez déjà dit.
Oui, il n'est pas prévu, a priori, qu'elle reste en Europe. C'est une série de circonstances qui vont faire qu'elle et son mari, le peintre et décorateur de théâtre Michael Gottlieb, dit qu'il s'appellera plus tard Aram durant leur vie à Paris. Et il est mandaté à Paris pour aller étudier les techniques scéniques de l'opéra comique et de l'opéra de Paris. Et donc, elle l'accompagne. Ils arrivent en octobre 46 en France, donc juste peu après la fin du procès de Nuremberg, des criminels nazis. Et très vite, elle est invitée à présenter ses œuvres. Elle est repérée par la presse, elle est repérée par les photographes, et puis elle est repérée, bien sûr, par le monde juif, qui est marquée par cette danse d'une grande beauté, très solaire, ses costumes colorés, ses thématiques qui puisent dans l'histoire juive, mais pas que, qui déploie aussi un travail abstrait extrêmement intéressant en termes de mouvement. Et elle est approchée par le rabbin Bernstein, qui est le conseiller du général des armées américaines en Europe. Mm-hmm. qui lui propose de rejoindre ce qui a été appelé les tournées morales organisées par l'American Joint Distribution Committee, qui est un organisme d'aide aux populations juives créé depuis la Première Guerre mondiale, qui aide les populations juives dans le monde entier, qui a joué un rôle majeur dans le soutien aux exilés dans les années 30, dans le soutien aux juifs enfermés dans les ghettos en Pologne, et qui joue après-guerre, qui est un des organismes humanitaires qui aide dans les camps de personnes déplacées des zones d'occupation alliées en Allemagne et en Italie et en Autriche. Et Paula est invitée à rejoindre ces tournées morales qui, en fait, consistent à inviter à tourner dans les camps de personnes déplacées des artistes venus des États-Unis, de l'Europe libérée. Beaucoup de ces artistes sont eux-mêmes d'anciens exilés. Et Paula fait partie de ce groupe d'artistes qui va sillonner les camps. D'autres danseuses sont invitées. Et elle est une des figures importantes de ces tournées morales. Elle fait 3 tournées entre janvier 47 et juillet 48, dans une 60aine de camps de personnes déplacées de la zone d'occupation américaine. Et puis, elle danse devant plus de 140 000 personnes, à la fois qui sont des populations juives, qui ont leur propre camp de personnes déplacées, c'est-à-dire il y a à la fois les rescapés des camps, mais aussi les déplacés suite au traité d'après-guerre qui déplace les frontières, mais également les réfugiés qui fuient la montée du contrôle communiste d'Europe de l'Est. Et dans ces camps de personnes déplacées, Paula apporte ses danses dans son projet. Elle adhère profondément à ses tournées et à sa mission. Elle veut absolument rendre confiance aux personnes qu'elle rencontre. Elle découvre ce qui s'est passé durant la Shoah à cette occasion, puisqu'elle reçoit les témoignages, les premiers témoignages de ces personnes, les témoignages de première main, ce qui l'amène à renverser son regard sur son pays d'origine, à revoir aussi son regard qui était assez amer sur la Pologne de sa famille, et parce qu'elle se relie aux populations yiddishophones, elle se relie aux rescapés et elle veut aider, et elle apporte cette danse dans des conditions, bien sûr, de voyage qui sont excessivement difficiles, sur des routes en ruine.
Très spartiate, oui.
Très spartiate, dans des camps de personnes déplacées où il n'y a parfois, même souvent, pas de scène en particulier, il n'y a pas de chauffage. Donc ce sont des conditions de voyage très difficiles, mais il y a un rapport qui se crée avec ses publics et qui est d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle rend, à ses populations humiliées, elle rend le regard. Elle rend un regard qui redonne dignité. Elle redonne accès à des émotions positives. Donc effectivement, la joie circule de nouveau. Elle est entourée après les spectacles par le public qui ne veut pas la laisser partir. Les photos de ses tournées sont extrêmement intéressantes pour ça. Elle va bien sûr danser, faire des spectacles aussi spécifiquement pour les petits orphelins qu'elle va voir dans les maisons des orphelins. Donc il y a quelque chose de tout à fait unique qui se déploie là, c'est que elle, porteuse de cette modernité juive d'Europe centrale qui a disparu avec la Shoah et qui retrouve là les rescapés d'Europe de l'Est yiddishophones, qui sont les rescapés là aussi d'un monde englouti. Donc c'est un moment de rencontre absolument exceptionnel de l'histoire de ces années d'après-guerre qui va marquer beaucoup de gens. On est au début de la guerre froide. Ces rescapés sont vraiment dans l'attente, sont coincés dans leur camp, qui sont pour certains d'anciens camps de concentration, d'anciennes casernes militaires de la Wehrmacht allemande. Donc c'est très difficile de rester là, dans ce temps d'attente, sans savoir ce qui va se passer à l'avenir. Et Paula arrive, et comme les autres artistes de ses tournées morales, ouvre l'espace, en fait, et ouvre le futur, et leur montre que oui, il y a un avenir possible. Patientez, il y a un avenir possible. Vous allez pouvoir revenir à une vie normale, ce que, bien sûr, les rescapés souhaitent. Et c'est, par ailleurs, ce qu'ils font eux-mêmes déjà dans les camps de personnes déplacées, puisqu'ils sont très actifs culturellement. Donc, c'est une rencontre assez exceptionnelle.
On comprend mieux ce que recouvre ce terme de tournée morale qui peut sembler qui est assez étonnant.
Oui.
Mais bon, on comprend bien que voilà, c'est pour insuffler à nouveau de la vie et de la confiance chez les rescapés. Elle a transmis, elle a beaucoup enseigné, elle a formé des danseurs. Est-ce qu'elle a eu des héritiers, des danseurs qui se sont réclamés d'elle ?
Alors, quand elle a arrêté sa carrière de scène, elle a commencé à enseigner au studio Wacker à Paris, qui était à l'époque vraiment le temple de la danse néoclassique, mais également de la modernité également. Et elle enseigne à des étudiantes, beaucoup d'étudiantes américaines et suédoises. Puis ensuite, comme je le disais, elle vraiment se lance dans un parcours de pédagogue pour amateurs. Donc elle enseigne à des enfants, mais aussi à beaucoup de jeunes femmes qui vont être de fidèles élèves durant plusieurs décennies. Deux fois, trois fois par semaine, elles suivent ses cours. Donc Paula ne forme pas d'artistes professionnels, à part peut-être au studio Wacker, mais on a perdu ses traces. Mais surtout, elle fidélise des jeunes femmes qui ont besoin d'un équilibre de vie, qui le trouvent par la danse. Et cet enseignement-là est d'une grande qualité parce qu'elle est très fidèle, en fait, à l'enseignement wigmanien, quand bien même Wigman a fait partie des personnes qui ont collaboré avec le nazisme, mais elle ne le savait pas à l'époque. Elle n'a pas peut-être tout compris et elle comprendra avec le temps l'ampleur de cette collaboration, avec beaucoup de douleur. Mais en termes artistiques, elle s'appuie sur cette base wigmanienne et puis ensuite elle apporte tout ce qu'elle a développé aussi en Palestine mandataire, ce rapport avec ses musiques de tambourin, mais aussi le piano, puisqu'elle est pianiste. Elle intègre aussi des éléments de yoga. Et elle développe surtout, j'ai envie de dire, une culture chorégraphique humaniste. Alors, peut-on parler d'humanisme après-guerre ? C'est difficile, mais en tout cas, elle apporte cette culture, ce sens de l'altérité qu'elle a déployé dans l'exil, qui est vraiment le fruit d'un parcours difficile. Et effectivement, quand on traverse des épreuves dans la vie, a priori, on a besoin de se redéployer vers les autres. C'est ce qu'on appelle le processus de la résilience. Et c'est véritablement, ce sont ces valeurs-là, de ce regard respectueux envers l'autre et ce besoin de dialogue et de se nourrir aussi de la vie des autres, c'est ce qu'elle met au centre de son enseignement. Et c'est ce qui explique, je pense, cette fidélité avec ces jeunes femmes. Et il y a quelque chose qui est là encore, il me semble, qui relève d'une philosophie juive du rapport à l'autre, qu'elle ne revendique absolument pas, puisque c'est une femme très discrète, très humble et en même temps pleine de vie, pleine de passion, mais qui ne met pas en avant l'histoire de sa vie dans son enseignement. C'est une transmission, j'ai envie de dire, invisible, donc très raffinée finalement.
Je n'ai pas trouvé d'archives vidéo de Paula Pellani dansant. Est-ce qu'il en existe ? Il existe beaucoup de photographies, mais voilà, en regardant sur Internet, je n'ai rien trouvé.
Alors, il existe beaucoup de photographies magnifiques qui datent beaucoup de la Palestine mandataire, puisqu'elle a été photographiée par les grands photographes exilés. J'ai cherché les archives filmées en Israël, je n'en ai pas trouvé. Bon, il y en a peut-être. Les traces de Paula sont dispersées entre Paris, la collection familiale qui est arrivée au MAJ, mais aussi les traces de l'histoire familiale à Hambourg que j'ai pu retrouver, certaines traces que j'ai pu retrouver à New York, puisqu'elle a fait une grande tournée, enfin une tournée, disons un voyage à New York après-guerre pour retrouver une partie de sa famille, durant lequel elle a dansé. Et comme en Palestine mandataire, elle a rempli des théâtres entiers en arrivant comme inconnue, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et j'ai cherché des archives filmées à Paris, je n'en ai pas trouvé, puisqu'elle a quand même dansé au Palais de Chaillot, elle a fait salle pleine, à la salle Pleyel, salle pleine également. En revanche, son mari, et c'était un couple très amoureux, très soudé, son mari a beaucoup filmé sa femme dans leur atelier où donc Michael Gottlieb dit Aram peignait. Elle a été filmée dansant tous les jours ses solos de Palestine, mais également improvisant sur toutes sortes de musiques classiques, modernes, contemporaines, chantant elle-même. Et cela dans les années 70-80. Et on a retrouvé avec Gabrielle Gottlieb de Gail, la fille unique de Paula et Michael, on a retrouvé des cassettes dans la collection familiale qu'on a fait numériser.
D'accord.
Et on a découvert donc tous ces films amateurs faits par Michael, qui sont merveilleux parce que il montre Paula dans sa maturité, continuant à danser tous les jours. Donc, c'est pour elle vraiment son fil de vie. Mmh. Ça a été, la danse a été véritablement dans cette vie de migration, une sève pour grandir, mais pour se relier à la vie de façon très forte. Et c'était une femme qui avait beaucoup de joie, beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergie de vie. Mmh. Et ces films amateurs sont la seule trace pour l'instant filmée.
Aujourd'hui, ces films ont été donnés au muséum.
Absolument.
Au Mage.
Oui, ils sont préservés par le Mage.
Vous avez eu la chance de la rencontrer, je crois, Paula Padani.
J'ai eu la grande chance de la rencontrer dans les années 90, quand moi-même je faisais ma thèse d'histoire. J'aime énormément l'histoire orale et je cherchais à retrouver les témoins de l'époque, puisque je travaillais sur l'émergence de la danse moderne dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Et je suis entrée dans cette famille qui m'a accueillie à bras ouverts et depuis, nous ne sommes jamais quittés, sauf par le décès de Paula et Michael.
Ouais. En quelques mots, quel souvenir vous gardez de, non pas de la danseuse, mais là de la femme que vous avez rencontrée ?
En fait, c'était une vraie rencontre parce qu'elle était très curieuse de mes recherches, puisqu'elle était en quête de savoir ce qui était advenu de ses camarades, de son maître, sa seconde mère artistique, si je puis dire, Marie Wigman. Et qu'elle comprenait que je travaillais sur l'époque sombre du nazisme et que j'essayais de comprendre pourquoi ces artistes ont collaboré. Une partie de ces artistes de la modernité, des avant-gardes de Weimar ont collaboré. Donc on sentait qu'il y avait encore une douleur en elle, bien sûr. Et en même temps, elle était très heureuse de rencontrer une jeune femme qui connaissait le monde de sa jeunesse alors qu'on avait décennies d'écart. Et c'était une très belle rencontre et le couple était extrêmement savoureux, tous les deux, une voix profonde, un accent absolument délicieux, une immense culture, une immense curiosité, tous les deux, vivant très modestement. Et on a eu des moments autour d'un café, de discussions très, très longues, très intéressantes. Et à chaque fois, c'est ça qui était assez merveilleux et fascinant, on ouvrait les albums photos détournés dans les camps de personnes déplacées. Mmh. Parce que ces albums pêle-mêle, faits par tous les deux, présentaient les articles de presse dans toutes les langues, y compris en yiddish, mais aussi les articles publiés aux États-Unis à New York, et puis les photos, où on la voit danser dans ces anciens camps de concentration, dans la cour, devant, c'est rescapé. Donc, quelque chose de très, très poignant, et j'ai tout de suite compris qu'il y avait là un trésor, qui était bien sûr un trésor familial. Et c'est seulement plus tard, avec Gabrielle de Gayle, leur fille, qu'on a pensé qu'il fallait déposer cette collection. Mmh. Mais c'était un couple qui était dans une réflexion sur le monde. Ils auraient pu rentrer après-guerre, après leur passage en Europe, ils auraient pu rentrer non plus en Palestine mandataire, mais en Israël, puisque l'État d'Israël venait d'être déclaré. Alors, dans le contexte de conflit, eux-mêmes ayant perdu une partie de leur famille dans la Shoah, peut-être n'ont-ils pas voulu rentrer en Israël à ce moment-là. Leur carrière à tous les deux était aussi bien enclenchée en Europe. Paris est devenu pour eux leur ville d'adoption en tant que juifs de la diaspora. C'était important pour eux de retrouver un espace calme, en paix. Et bien sûr que après-guerre, en 46, les lois anti-juives de Vichy ont été abolies. Et ils ont, quelques années plus tard, demandé la nationalité française. Ce qui est intéressant, parce que ça montre aussi leur parcours politique, leur choix, finalement, de vivre en diaspora et non pas en Israël, sans doute par besoin d'avoir une vie paisible. Et puis aussi leur choix de se relier à une diaspora, à la vie en diaspora, c'est-à-dire aussi le besoin de rester libre dans leur manière de construire leur vie sans devoir se relier à des appartenances fixes, mais se donnant en tant qu'artiste la liberté de choisir leurs appartenances, et leur appartenance fondamentale, ce sont les mondes de l'art, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ils ont finalement choisi une vie de bohème, au sens où ils mettent au centre l'authenticité, la vérité, le tissage entre la créativité et la vie. Voilà. Et l'idée derrière ça, derrière leur créativité, c'est de pouvoir inventer leur vie, ce qu'ils ont fait toute leur vie.
Merci beaucoup, Laure Guilbert. J'avais une toute dernière question. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais je le disais en introduction, vous êtes membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts dans la section chorégraphie depuis un an maintenant. Est-ce que vous pouvez rappeler le rôle des correspondants dans cette Académie des Beaux-Arts pour nos auditeurs ?
Alors écoutez, je le découvre au fur et à mesure.
Ouais.
Moi, tel que je le comprends, c'est un rôle au service, c'est se mettre au service, à l'écoute, à la fois des besoins des académiciens, s'ils souhaitent que l'on fasse des projets ensemble, faire avancer certaines causes du monde de la danse, je suis à l'écoute. Mm-hmm. Ensuite, le rôle est également de participer à ces fameux jurys qui permettent de mettre en avant des artistes, de reconnaître leur parcours ou bien de stimuler de jeunes artistes. Et puis, pour moi, je le comprends comme un rôle où il faut se faire aussi le relais des besoins du monde de la danse. Au sens large, il est tellement difficile aujourd'hui d'être artiste, de construire une carrière. Donc, il faut être informé pour pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une aventure tout à fait nouvelle. Donc
il y a beaucoup à faire, en tout cas.
Il y a beaucoup à faire, oui.
Merci beaucoup, Laure Guilbert, de nous avoir transmis un morceau de votre savoir sur Paula Padani. On mettra sur la page de l'émission le livre que vous avez écrit, Danser avec le Troisième Reich, les danseurs modernes sous le nazisme. C'est publié dans la collection Histoire culturelle, c'est ça, dirigé par Pascal.
Alors, la première version était publiée par les éditions Complexes. Mm. Et il va y avoir une réédition l'année prochaine.
D'accord. Et on peut signaler aussi l'article que vous avez rédigé récemment dans la revue Archives juives, la revue d'histoire des Juifs de France. Voilà, il y a un article sur Paula Padani, une danse sur le fil de la vie en Bourg, Tel Aviv et Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.